sans défaite. Les Monégasques ont repris leur marche en avant, qui veulent mener jusqu'à la deuxième place et la Ligue des Champions l'année prochaine pour le centenaire du club. Monaco a battu Clermont 4 buts à 1, score plus flatteur qu'il n'y paraît, notamment en première période où Monaco menait 2-1, mais où Clermont avait égalisé par Thiam après l'ouverture du score de Minamino. Mbolo avait redonné avantage aux Monégasques avant un doublé de Wissam Ben Yedder en seconde période. Monaco a largement dominé, tout en concédant quand même des occasions. Brel Mbolo, premier but pour lui depuis son retour de blessure après sa rupture du ligament croisé. On l'écoute au micro Arte de Mickaël Lefebvre.
C'était très important de faire le taf aujourd'hui. On l'a fait et la manière aussi était bonne et tout. Et on a montré que même si on a eu ce match à Lyon, qu'on est toujours sur une bonne lancée et qu'on a beaucoup de confiance. Non, c'est pas encore fini. J'ai vu qu'on est sûr d'être quatrième, mais comme j'ai dit, on est deuxième. On veut garder cette place. On a tout pour. On a ça dans les jambes et on a ça devant nous. À nous de finir le travail et de finir la saison de la très très bonne manière.
Même si ce n'était que Clermont, peut-être que c'est la victoire la plus difficile après la défaite à Lyon pour se redonner confiance et ne pas douter. Karine, Monaco, à l'heure où on se parle, a 4 points d'avance sur Brest qui est tenu en échec par Nantes et 6 sur Lille qui a certes un match en moins à jouer contre Lyon, mais voilà, ils sont bien installés à la deuxième place.
Oui, vous étiez un petit peu inquiet hier, je vous rappelle.
Oui.
Mais je vous avais rassuré.
Avec la blessure de Zakaria, Golovin absent.
Vous allez finir cinquième, ça allait être un drame. Non, mais franchement, Monaco a été au rendez-vous. Minamino a été l'homme du match. Il a été
l'homme de la saison, peut-être même, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de Golovin, mais Minamino sur l'ensemble de la saison, il aura.
Ouais, il a eu un peu des trous aussi, mais il a fait une très bonne saison par rapport à Kasper l'an dernier.
La première,
bien évidemment. Et donc c'est vraiment l'homme du match. Et puis Ben Yedder, mais bien sûr. Mais je veux dire, Ben Yedder, il sait tout faire. Il sait marquer des buts, il sait faire briller ses coéquipiers parce qu'il en a donné aussi des beaux ballons. Il en a 15 buts en Ligue 1 et Monaco, de toute façon, mérite largement cette deuxième place ou troisième place. Bon, là, ils sont deuxième parce que ça a été une équipe qui a été très belle toute la saison. Moi, je regrette leur raté parfois. Ils avaient des matchs à leur portée et ils ont fait quelques erreurs. Ils ont laissé échapper des points, mais bravo à eux parce que c'est cohérent et parce que j'ai envie de voir un Monaco encore meilleur l'an prochain avec, j'espère, aussi du recrutement. Mais voilà, moi, je m'étais pas du tout inquiété avant ce match. Il n'y avait pas de quoi. Clairement, a été battu.
Ils ont quand même encore beaucoup concédé défensivement. Si Monaco joue la Ligue des Champions l'année prochaine,
mais tu changes tout.
Il y a évidemment deux choses à régler. D'abord, un défenseur central, ça c'est mais juste obligatoire.
Pas qu'un.
Et alors oui, pas qu'un, mais en tout cas au moins un taulier, un titulaire, un vrai patron de défense, ça c'est obligatoire si tu veux jouer avec des champions. Et puis quid du cas Wissam Ben Yedder qui est en fin de contrat, qui a un énorme salaire, mais qui continue à marquer.
Énorme.
Ah bah 600, plus de 600 000 par mois.
Pas mal. Monaco, c'est une paille.
Oui, bah très bien, mais bon, ça reste le plus gros salaire du club de très loin. Il a les années qui tournent quand même, mais quand tu vois que Balogun a du mal, Mbolo certes revient, mais est-ce que Monaco n'aurait pas intérêt, en plus c'est son club de cœur, jouer la Ligue des Champions pour finir avec son club de cœur, est-ce qu'il ne faudrait pas le prolonger un an à des conditions peut-être
déjà... Son club de cœur,
bah, en tout cas il a toujours dit qu'il voulait, oui, quand il a signé à Monaco il y a quelques années, il a dit vraiment
quand il était à Toulouse, c'était
je crois qu'avec son papa il y avait une histoire avec son papa avec
Monaco, je savais pas,
donc voilà, il voulait vraiment jouer à Monaco.
De toute façon il était parti.
Pour moi, c'est même pas une question d'intérêt, c'est quasiment un devoir. C'est-à-dire qu'il a eu des périodes compliquées. On sait que personnellement, sa vie est difficile depuis de longs mois. De
toujours mis en examen, hein, n'oublions pas.
Hein. Voilà, et ça, il ne faut pas l'éluder. Karine l'a dit, 15 buts encore.
Mais le club l'a protégé, lui a laissé le brassard, l'a fait jouer toute l'année.
Il fait encore une saison à 15 buts, son quatrième doublé, le deuxième de suite. Je veux dire, quand il joue, il est irréprochable. Il a le brassard de capitaine. Adi Hütter connaît son importance, aussi bien sur le terrain que dans le groupe. C'est un profil différent de ceux de Balogun et de ceux de Brel Mbolo qui, on l'espère, va pouvoir enchaîner les matchs sans se blesser. On sait que ça a été l'un de ses soucis majeurs, hein, c'est cette fragilité. Là, c'est une rupture du ligament croisé, c'est encore particulier.
Caio Henrique aussi a rejoué quelques toutes petites minutes en fin de match.
Moi, j'espère que Monaco va décider de le prolonger. En tout cas, il le mérite. Mais ce qui est récompensé aussi dans cet après-midi monégasque, c'est la régularité de l'AS Monaco cette saison, je trouve. C'est-à-dire que c'est une cinquième victoire sur les 6 dernières journées. C'est une équipe qui est particulièrement constante, qui fait face à beaucoup d'absences, qui aujourd'hui joue un système assumé, hein, à 4 avec des joueurs très offensifs. Minamino à Cliouche dans les couloirs, Mbolo, Ben Yedder associé. Je veux dire, c'est de vrais choix d'Adi Hütter qui compose très bien avec cet effectif-là. Et bravo à Monaco.
Non, mais Ben Yedder à 400 000 par mois, tu le signes.
Oui, mais faut-il qu'il accepte de baisser son salaire.
Je ne sais pas s'il aura aussi 600 000 ailleurs. Mais par contre, tu prends deux défenseurs centraux.
Oui,
tu prends aussi un gardien. Parce que, qui, tu ne sais pas. Il faut un top gardien. Je veux dire, il y a un moment, tu as la chance de, si tu dû prendre des étrangers, de ne pas payer d'impôts. Il faut que Monaco puisse avoir une petite ambition, au moins en Ligue des Champions. Et défensivement, ça fait trop longtemps que ce n'est pas assez sûr.
Monaco quasiment qualifié, mais ce n'est pas fait pour la Ligue des Champions. C'est reparti à Brest. Philippe, on va entériner la reprise. Et il y a un corner pour Brest. Donc
oui,
on va
quand
le
même,
suivre,
bien quand sûr. Même,
parce non, mais parce qu'après, on va écouter la Slobolonie, qui apparemment est remontée comme une pendule.
Bien sûr, mais le corner, il est intéressant pour Brest, avec le renvoi au premier poteau de Moussa Sissoko de la tête, qui écarte le danger depuis ses 5m50. Ça va revenir là avec un happen under de Bradley Loco, mais ça ne profite pas aux attaquants brestois. Mais c'est quand même le SB29 qui peut récupérer le ballon définitivement avec Kenny Lala, qui a prolongé jusqu'à Marco Bizot. Cette fois, je vais pouvoir vous céder l'antenne. 2 minutes ici à l'Oblé en deuxième période, 0-0 toujours.
Je voudrais simplement, avant qu'on vive cette seconde période avec toute l'intensité, la passion qui nous caractérise, et surtout toi Philippe au commentaire, qu'on écoute la première action de Laszlo Bologna, l'entraîneur de Metz, après la défaite concédée à Saint-Symphorien en fin d'après-midi face à Rennes, 3-2. Les Messins qui avaient ouvert le score par Mikotadze, qui avaient même repris l'avantage après l'égalisation de Guiri par Diallo, mais qui ensuite ont cédé sur consécutivement 3 actions qui font beaucoup parler. Un pénalty accordé au Rennais transformé par Bourigeaud, puis un but de Kalimuendo validé malgré peut-être une faute au départ de l'action des Rennais, et ensuite l'expulsion de Mikotadze pour un poitrine contre poitrine avec Kalimuendo après le 3e but Rennais. Laszlo Bologna, Dimitri Hamelot est allé lui tendre son micro RTL sous le nez, et malgré son grand âge, sa sagesse et sa passion du football, Laszlo Bologna, là, il en avait gros sur la patate.
Je ne peux pas commenter parce que c'est incommentable. Je me pose une seule question. Est-ce que vraiment je suis prêt de parler pour vous vraiment ce que je ressens et vraiment ce qui est sur mon cœur? Parce que si je fais ça, alors j'achète tout de suite un billet pour aller à la commission de discipline. Et ils vont avoir raison. Parce qu'il y a toujours une phrase, un mot d'interprétation. Déjà, je crois qu'avec ça, j'ai trop dit. Ce sont des jugements lesquels, dans le championnat régional, ne passent pas. Ce sont des jugements incompréhensibles. Je ne peux pas comprendre. Quand quelqu'un il est aveugle, et je ne fais pas allusion à personne maintenant, il prend un bâton blanc et il va avec celui-là. Mais on va prendre pendant 2 jours des somnifères, moi sûr, pas tout le monde, je suis persuadé, et on va lever la tête, puis on va continuer le travail.
Laszlo Bologna, très touché. Alors, ce que j'adore avec les entraîneurs, c'est que quand tu leur poses la question, ils commencent toujours par dire « Non, je peux pas, parce que sinon, après, je vais... » Et puis derrière, en général, boum, au bout de quelques secondes...
Il est quand même resté
secondes,
très soft.
Ouais, mais au bout de quelques secondes, ça part quand même, quoi.
Non, mais là, je pense que, tu vois, pour le coup, parce que c'est ce qu'il redoute, ce qui est bien, entre c'est guillemets, il ne pourra pas être convoqué par la commission.
Non,
tu vois,
non, parce qu'il a cité personne.
Il est resté dans les clous.
Ouais.
Mais c'est une honte.
Bah, il dit quand même, des décisions rien. Comme ça, au niveau régional, on ne les prend pas. Et si tu es aveugle, tu prends une canne blanche et tu te balades avec.
Dans le fond, il a raison, parce que c'est quand même catastrophique. Oui. L'arbitrage a été fait complètement à l'envers. Rudy Buquet n'a pas redoré l'image de notre arbitrage français, malheureusement, bien au contraire.
Moi, j'en appelle vraiment sur RTL à 22h07 à la commission de discipline. Le match, maintenant, la victoire, elle est entérinée. Oui. On ne va pas revenir sur faute, pas faute, pénalty, pas pénalty.
Il ne va pas être rejoué,
okay.
Ça c'est sûr.
Le match, victoire de Rennes, ok. Mais la commission de discipline peut encore influer et, on va dire, minimiser les conséquences de ce qui s'est passé dans cette rencontre. La commission de discipline a le pouvoir de dire on retire le carton rouge de Mikotadze pour que le meilleur joueur de Metz et le meilleur buteur de Metz puissent finir la saison les 2 derniers matchs. Donc, messieurs de la commission de discipline, faites votre boulot, prenez vos responsabilités et retirez ce carton rouge. Point barre, c'est tout.
Je suis de tout cœur avec vous. Je signe cette pétition, mais ça ne sera pas le cas.
Et j'irai même plus loin, Eric. Attention, on va suivre ce ballon en profondeur pour Mathis Sablin, repris en vitesse par la défense brestoise et notamment Lilian Brastier, Bizot qui va pouvoir relancer pour les Brestois. J'irai même plus loin. Est-ce que ça ne vaudrait pas pour Kalimuendo également un match de suspension, en tout cas un cas étudié en discipline, puisque quand il y a un mauvais geste qui a échappé à l'arbitre pendant le match.
Il a pris un jaune.
Non, mais Philippe, là pour le coup, je pense qu'il faut oublier cette action. Kalimuendo, il a un peu trop chambré, c'est pas bien. Mikotadze, il a voulu lui dire ce qu'il a dit. Et à l'arrivée, il n'y a rien. C'est un truc de bonhomme.
Mais c'est la simulation de Kalimuendo qui est choquante, d'après ce que vous avez dit.
Non, je ne parle pas de simulation, je parle d'exagération.
Mais bien sûr qu'il simule.
Oui, mais tu ne lui mets pas un match de suspension pour ça.
Moi, je suis d'accord.
Non, Philippe. Philippe, match. Tu retires le carton rouge.
Tu mets
et
jaune
en gros,
deux. Tu mets jaune voilà. deux, c'est tout.
Non, mais il a eu le jaune, Kalimuendo.
C'est Kalimuendo oui, qui vient taper dans Miko Tadzi.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que la commission de discipline ne va pas retirer le carton rouge pour mettre un match de suspension à Kalimuendo. La commission de discipline dit c'était une action anodine d'orgueil entre les deux, on oublie tout, on efface le carton rouge, et point barre.
Mais je persiste et je signe, Miko Tadzé s'avance jusqu'à lui, s'arrête, et c'est Kalimuendo qui vient lui
mais
taper.
Mais ça, c'est dans le sens dont on annule le carton rouge. Voilà. On rajoute Miko pas un Tadzé truc à Kalimuendo. Parce que si tu commences à rajouter un truc à Kalimuendo...
Oui, qui... Non, mais ça, ouais, je suis d'accord avec toi.
Plus.
Non, mais
l'occasion pour Nantes avec l'arrêt réflexe de Bizotte sur un centre qui est plongeant dans le dos de la défense brestoise. Kadewere qui jaillit dans le dos de la défense, qui prolonge de la tête, et Bizotte qui est trompé au dernier moment par la trajectoire du fait de cette déviation juste devant lui qui réussit à écarter le ballon de la main. J'allais y venir, Xavier, mais je voulais quand même terminer la description de l'action parce que l'arrêt de Bizotte est formidable et de toute façon il y avait hors-jeu, mais il n'empêche que Bizotte sur ce coup-là avait encore été
tout à fait
excellent, décisif, et si le but avait été marqué il aurait été refusé puisque le drapeau s'était levé. On est reparti effectivement avec un hors-jeu joué dans la surface de réparation brestoise. Eric, tu m'as totalement convaincu sur Kalimuendo et pourtant c'est mon côté breton, souvent je suis un peu têtu hein.
Non, mais tu as raison.
Mais moi pas du tout.
Mais en tout cas le jeu qui repart plutôt bien pour Nantes là, parce que si Brest s'était porté à l'attaque dès le début de la deuxième mi-temps, on voit à nouveau des Canaris entreprenants comme en fin de première période. Ils sont dans la surface de réparation brestoise là, et la défense brestoise qui ne parvient pas à se dégager, le ballon qui est récupéré par Moutoussamy, le 1-2 entre Kadewere et Traoré, finalement la remise, le 1 est passé mais pas le 2, et du coup c'est Traoré qui vient tacler, qui va sans doute écoper d'un jaune. Voilà, jaune à venir de la part de M. Turpin, totalement logique, puisque Traoré, qui en défendant a voulu récupérer ce ballon, mais qui est arrivé très en retard et qui a taclé le défenseur brestois, qui n'est autre que Bradley Loco.
Le fameux tacle d'attaquant.
Et oui.
Voilà.
C'est Brassier qui est à terre.
Ah, c'est Brassier, effectivement. Ouais. Effectivement, qui
ça change pas grand-chose, tu me diras, que ce soit un ou l'autre.
Oui, mais ce qu'il faudrait pas, c'est que après Desmelou et Del Castillo, Brassier, qui est en train de se faire soigner.
Ça ferait les trois meilleurs joueurs.
Toute la colonne vertébrale, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il manquerait plus que Bizotte, et puis alors là, ça serait la totale.
Ça noir sur ce match.
Petite alerte pour Chardonnay, et puis c'est bon.
Mais ça va aller, je pense, pour Brassier. On est en train de lui prodiguer de la bombe magique. Alors moi, j'avais lu quand j'étais petit que la bombe par-dessus une chaussette, ça faisait aucun effet. Donc c'est... du coup ça serait psychologique,
ouais, attention, la bombe il faut jamais la mettre trop près, ça,
oui,
brûle,
ça peut brûler, mais bien sûr, parce que là avec ma blessure,
c'est pas si mal, hein.
Le médecin il arrêtait pas de manette, en fait ça brûle. Non, mais ça n'a rien de magique. Mais
évidemment, et il ne faut jamais non plus, par exemple, quand vous mettez de la glace, si vous avez un œdème ou un hématocrone, ne jamais mettre la glace directement sur la peau.
Non, jamais.
Vous mettez toujours un linge.
Mais sauf que la bombe, on met directement sur ta peau, ça fait un mal de chien. Moi, il m'a fait un mal.
Et alors, petit conseil. Vous embêtez pas à acheter des trucs qui coûtent une fortune, tu sais, pour faire le froid, les trucs bleus là que tu mets au congélateur et tout.
Oui,
ça.
Que tu craques,
ça coûte une fortune.
Ouais,
et tout.
Ouais.
Vous prenez un sac de petits pois.
Mais bon, moi j'ai pas de petits pois dans le congélateur.
Non, mais t'achètes un sac de petits pois n'importe où, tu mets au congélateur, hein. Ça coûtera 10 fois moins cher. Et c'est un kiné qui m'avait donné cette astuce.
Mais c'est vrai.
Après une rééducation justement du croisé. Et en fait, le petit pois, en fait, ça fait toutes des petites billes glacées, donc gelées, qui en plus s'adaptent parfaitement et prennent la forme de là où tu dois le poser sur ton pied, sur ta main, sur ton coude, etc.
Très bien.
Et ça te coûte rien.
Mais bon, après, quand tu les remets au congélateur, faut pas.
Non, mais non, justement.
Enfin, ils ont décongelé les petits pois.
Mais tu les remets au congélateur et tu t'en sers que pour ça.
Ah
oui,
tu peux pas les remanger.
Oui, tu les manges pas.
Tu mets dessus à ne pas manger. Ça, tu t'en sers que pour plus, le froid.
Ah, c'est les petits pois blessures.
Les petits pois blessures, exactement.
Tu écris quelque chose dessus si t'es pas sûr.
Si tu n'as pas de petits pois, tu peux aussi faire avec de la compote.
Les bons tuyaux d'Eric.
Oui, je me suis dit,
Décliner.
Non, mais c'est moi, j'aime bien écouter RTL Foot, notamment pour ça, parce que j'apprends des trucs
économiques et pratiques.
Et le jeu qui a repris ici à Brest après la blessure de Brassier, qui a repris sa place, je rassure tout le monde. Heureusement pour Brest, qui a déjà perdu de Lesmelou et Del Castillo. Coup franc à venir pour les joueurs d'Éric Roy, plein axe, mais loin quand même du but d'Alban Lafont, et Pereira Lage qui a une occasion de se rattraper, de faire plaisir à Karine après son coup franc manqué de la fin de première mi-temps.
Attention Mathias, ça pique toi.
Oui, oui, oui. T'as la pression là Mathias.
Je te regarde.
Et Mathias Pereira Lage, toute petite prise d'élan, il la joue plat du pied sur le côté droit, le et centre voilà. À venir et renvoyer ce centre de la tête par Duvert. Non, c'était Kadewere qui était redescendu en défense.
Je peux chipoter, Philippe? Oui. T'as vu, je l'ai senti qu'il allait la donner à droite. Hein. Je l'ai dit avant qu'il le fasse. Mais, eh ben, il la donne mal. Il la donne pas assez en profondeur et pas assez appuyée. Du coup, le défenseur nantais a presque le temps de venir gêner le centre. Donc, il s'est encore pas appliqué.
Il vaut mieux la mettre dans la course du centre.
Et bien sûr, et un peu appuyé pour que le centreur, en courant, n'ait plus qu'à centrer. Là, et le temps que le ballon arrive, qu'il se décale, et le défenseur est revenu.
Ça ne surprend pas la défense. Et puis, à la réception, ça ne surprend pas la défense non plus, qui a le temps de s'adapter, alors qu'elle s'attendait au départ à ce que Pereira Lage mette directement ce ballon dans la boîte. Les Brestois avec Satriano tout près de la surface de la réparation nantaise, ça combine bien côté droit. Satriano en position de centre, Schmeurt qui se baisse, qui se penche pour renvoyer ce ballon de la tête, et le danger qui est écarté, touche à venir pour les Brestois, mais depuis leur moitié de terrain.
Ouais, Brest a intérêt de pousser quand même, hein. Un match nul ne serait pas une bonne affaire du tout.
Bien
hein.
sûr.
Ah
bien
oui,
sûr.
Non, il faut.
Et
parce qu'un match nul, en cas de succès de Lille contre Lyon à domicile lundi, Brest se retrouvait quatrième. Et là, n'aurait plus son destin en main. Enfin, en tout cas pour la troisième place.
Bien sûr.
La deuxième.
Bien sûr. Lundi soir, c'est peut-être Lille qui reprendrait la main dans cette fameuse course au podium si importante, directement qualificative pour la Ligue, les poules de Ligue des Champions la saison prochaine.
Oh, j'ai envie ça dire, change tout. Hein.
J'ai envie de dire pour Brest, quatrième, ce serait déjà fantastique. Mais après la saison vécue par les Brestois et échouer si près du but alors qu'ils sont sur le podium depuis quasiment la mi-saison, ce serait, ça serait frustrant pour les Brestois.
Mais ça on en est dommage.
Pas là. On n'en est pas là. Il reste une grosse demi-heure encore dans ce match. Et c'est Brest qui est en possession du ballon avec... au tout départ, Loco qui a choisi de revenir derrière avec Brassier, mais ils sont gênants, hein, les Nantais, depuis le début. Ils bloquent régulièrement les offensives brestoises. Antoine Comboiré a bien préparé son affaire et pour le moment, sa défense à 5 tient bien. Son dispositif est plutôt porte ses fruits, même si là, c'est Mounier qui réussit à donner un bon ballon en retrait pour Kelly Lala qui est contré, repris par un attaquant nantais qui revenait, repris également par deux défenseurs nantais qui étaient montés sur lui, et petit carton pour Lala qui a laissé traîner la semelle en voulant récupérer le ballon devant la surface de réparation nantaise, mais coup franc à venir pour Nantes et carton pour Kelly Lala à une demi-heure de la fin, toujours 0-0. Et en revanche pour Nantes, c'est un bon point et un point de plus dans la course au maintien qui se dessine petit à petit quand même pour les Nantais sous la pulsion notamment d'Antoine Comboiré. Ça va un peu mieux depuis que Comboiré est là, même si il faut le rappeler, Nantes reste sur une série catastrophique à domicile, y compris avec Comboiré. On en est à 9 défaites de suite à la Beaujoire.
Ce serait incroyable de battre Lille après 9 défaites consécutives lors du prochain match à la Beaujoire. Mais si Nantes prend un point ce soir à Brest, une victoire contre Lille et Nantes serait assurée d'être maintenue. Et donc j'aurai le dernier match à Monaco, on va dire l'esprit tranquille.
Ça prend forme quand même, hein, pour Nantes le maintien, parce que Metz reste à 29, 4 points à 2 journées de la fin, même si
Calendrier... Mais t'as de gros matchs.
Bien sûr, mais on l'a dit tout à l'heure, Eric, vaut mieux avoir 4 points d'avance à 2 journées de la fin.
Ça c'est certain.
Surtout sur la place de barrage, à un moment Nantes se disait, pourvu qu'on termine pas 17e, si c'est 16e, c'est pas grave, on sera pas encore en Ligue 2 et on aura notre destin en main. Ben là, ils peuvent carrément être dans le vert avant même la dernière journée, ce qui était quasi inespéré. Il y a quelques temps, les Nantais qui effectivement recevront Lille avec quand même ce fardeau de la Beaujoire, 9 défaites de suite dont 8 en championnat, c'est quand même terrible. 0-0 à une demi-heure de la fin ici à Leblay.
Nicolas Palois légèrement touché, mais ça a l'air d'aller, il s'est relevé. On marque une courte pause, la suite de ce Brest-Nantes après l'heure de jeu et après la pub.
RTL Foot. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
La radio de la collection Georges Lang.
Le rock dans tous ses états sur la radio de la collection
George Lang.
Retrouvez la radio de la collection George Lang sur le site rtl.fr ou l'application RTL. C'est simple et c'est gratuit.
RTL Foot,
présenté par Eric Silvestro.
avec Karine Galli, Xavier Demergue et Philippe Audouin au commentaire de Brest-Nantes 0-0 à l'heure de jeu. Je vous rappelle que Metz s'est incliné à domicile 3-2 face à Rennes avec l'expulsion de Mikotadze qui fait beaucoup parler en fin de match. Monaco a quasiment injustifié. Assuré sa place.
Oui, on peut le dire. Hein.
Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut dire injustifié, en effet. Monaco a battu Clermont 4-1 avec un doublé de Ben Yedder, un but d'Embolo, un but de Minamino. Et Monaco est assuré de terminer dans le top 4 et de disputer au minimum le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et puis Le Havre-Strasbourg, c'est du 3-1. Les Havrais qui étaient passés, d'ailleurs, qui étaient revenus à hauteur de Nantes avec 32 points. Mais désormais, Nantes, pour l'instant, en a 33, Philippe.
Et les Nantais qui tiennent bien, même si là, Steve Mounier vient de tenter une reprise sur un long centre dans la surface, et quand on connaît la qualité du jeu de tête de Mounier, ça peut être dangereux à tout moment, mais là il n'a pas réussi à cadrer. Et Palois sur le côté gauche, on sait que la vitesse c'est pas son fort, mais il obtient un coup franc, il a réussi à résister à la course à Pereira Lage, et il a même obtenu un coup franc. Je sais pas,
est-ce qu'il lui a pas mis le bras dans le torse ou le visage pour justement maintenir sa position? Est-ce que c'est pas lui qui fait une première faute?
Et la question se pose parce qu'il y a eu une réaction instantanée du public qui était plus proche que moi de l'action. Mais en tout cas,
non.
Ouais, il met le bras en effet, mais il est quand même devant. Non, franchement ça va. Bon, bonne situation de Palois.
Monsieur Turpin avait raison. Et coup franc donc pour les Nantais, avec Lafont qui sort de sa surface pour jouer ce coup franc et qui va renvoyer le jeu dans la moitié de terrain brestoise. On parlait du bilan catastrophique de Nantes à la Beaujoire. En inverse, à l'extérieur, en 2024, Nantes, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Hein. C'est 6 victoires, 2 nuls et 7 défaites sur l'ensemble de la saison. Mais surtout, en 2024, c'est 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Parce que je compte également la victoire en Coupe de France à Pau. 4 victoires en championnat à l'extérieur, 2 nuls et 1 défaite en Ligue 1 en 2024. Heureusement que Nantes est allé prendre des points, notamment au Havre et à Lorient, face à des rivaux directs, parce que sinon le club serait dans la panade et même au bord du précipice. Mais finalement, les Canaries vont peut-être réussir une fois de plus à arracher leur maintien en fin de saison. Les Brestois qui repartent de derrière là avec une belle construction. Et oui, il y avait un pressing nantais, mais Brest s'applique quand même sans allonger le jeu à reconstruire, même si finalement le ballon est perdu là dans la moitié de terrain nantais. Sissoko qui était là à point nommé pour stopper cette action. Les Nantais maintenant dans la moitié de terrain brestoise avec la fumée qui tarde à se dissiper autour de la pelouse de l'Oblé suite à des fumigènes qui ont été craqués sans doute par les supporters brestois. Coup franc à venir pour Nantes le long de la ligne de touche sur le flanc droit de l'attaque nantaise, et en deuxième mi-temps Brest est inoffensif, hein. Pas d'occasion excepté la tête de Mounier qui n'était pas véritablement dangereuse et nettement au-dessus. Et on est quand même à 19 minutes en deuxième mi-temps, et clairement sans Del Castillo, sans Les Melou, c'est plus tout à fait la même équipe sur le plan offensif.
Ce qui est normal.
Eh oui, bien sûr. Il n'y a pas les solutions de rechange à la hauteur de ces deux-là qui sont quand même les maîtres à jouer sur le plan offensif et en milieu de terrain. Attention à ce coup franc nantais, la reprise au premier poteau de la tête, mais il était loin à l'entrée de la surface, Mathis Sablin, et du coup sa tête a été captée sans problème par Bizotte. Attention, le long dégagement de Bizotte pour Pereira Lage qui a réussi à se jouer de Marcus Coco qui était resté sur ce coup de pied arrêté offensif en défense, et il n'était pas forcément
Il avait mal jugé la trajectoire du ballon de Bizotte, il s'est fait surprendre par le rebond. Exactement. Et ça aurait pu être très dangereux.
C'est les limites d'un défenseur qui n'est pas habitué à être dans cette position de dernier défenseur.
Ah, mais c'est même il y avait Moutou Samy aussi dans le coup.
Duverne qui était pas loin, c'est si Duverne, je ne me trompe pas. Et je crois que c'est Duverne, et ça a permis
Duverne. Oui, en fait, c'est Duverne qui se fait plus. Coco vient aider, au contraire, il gêne Pereira Lage dans sa frappe, mais c'est Duverne qui se fait
Duverne.
Ouais. Qui se fait le plus surprendre par le rebond, en fait.
Ce qui est moins excusable parce que lui, c'est un vrai défenseur pour le coup.
Et je peux vous dire que je suis en train de regarder pendant, en même temps que le match, je regarde un peu les réactions qui commencent à tomber là sur les forums et sur les réseaux et tout ça. Sur le...
Vous qui n'êtes pas un homme de réseau.
Oui, parce que vraiment, je vais en faire une cause de la semaine.
Allez,
de ce Mestren et du carton rouge de Mikotadze.
Et moi, je suis prête à aller manifester où vous voulez si vous me préparez des cookies.
Je peux vous dire que ça envoie, et je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Oui,
il n'y a aucun débat possible.
Tu peux pas.
Je dis même ça, tu vois. Je suis supporter nantais, forcément heureux du résultat, mais je suis surtout triste pour Metz qui se fait complètement voler. Le rouge de Mikotadze est ridicule. J'espère qu'il sera corrigé après le match.
Il y a quand même des chances parce qu'il y a eu un quart, et sans, je crois que c'est un Monégas si je ne me trompe pas, qui a été blanchi après un carton rouge.
Ah non, je crois pas.
Ah non, à Monaco,
ils n'ont jamais été blanchis. Singo a pris 3 matchs pour avoir fait un faux geste sur le doigt rond.
C'est vrai.
On avait eu le même débat. On disait,
Singo aurait pu avoir son carton rouge à vie, ce qui n'a absolument pas été le cas.
Mais non, en fait, c'est toi qui avais milité et ça n'avait pas porté ses fruits.
Absolument pas.
Il n'a pas assez de poids, malheureusement.
La voix d'Eric n'a pas suffi.
Non, mais c'est quand même exceptionnel parce que Ben Seguir, qui fait un vrai mauvais geste, lui, pour le coup, prend 3 matchs, ce qui est tout à fait logique. Et Singo, qui a juste une réaction alors qu'il est par terre ridicule, prend quasiment la même sanction. Enfin, je veux dire, c'est
non, mais ça n'a aucun sens. Borghini te dit sur le match entre Marseille et Nice qu'il y a eu 2 erreurs, donc notamment le rouge pour Mbagna. Il te le dit, et c'est Borghini. Et le jeudi à la commission, le rouge est finalement maintenu. Donc en fait, il n'y a aucune cohérence. Moi, malheureusement, je pense que pour Mikotadze, ils feront rien.
Après, il y a des cas, quand même, je pense, où il doit y avoir des exceptions. Je veux dire, là Mikotadze, il n'y a même pas le moindre geste, il n'y a rien. En fait, c'est pas possible.
Mais qui va aller au front pour eux?
Mais c'est arrivé par le passé que des joueurs soient blanchis a posteriori. Donc c'est rarement.
Mais c'est arrivé, tu as raison, mais c'est très très rare.
C'est Bernard Serin qui va monter la révolte.
Mais c'est même sans parler de l'importance des deux derniers matchs de Metz. Même sans parler de ça. Ne serait-ce qu'en en se focalisant sur la situation, en fait. C'est aberrant, quoi. Et Rudy Buquet ne devrait plus arbitrer un match de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, je vous le dis sincèrement. Parce que là, il ne se rend pas compte des enjeux, il ne se rend pas compte des conséquences qu'a ce genre de décision-là. C'est pas possible. Quoi.
Bah, il va s'en rendre compte a posteriori, parce qu'il n'est pas bête non plus, mais il a fait une erreur.
Il a quand même pu se corriger. Hein. Il est allé voir les images.
Oui, tout à fait.
Il ne serait pas allé voir les images, l'AVAR ne l'aurait pas appelé. J'aurais dit, bon, il a fait une erreur, il s'est fait berner. Bon, ok. Mais là, il est allé voir les images.
Parce qu'en plus, Philippe, c'est rare que ça se passe comme ça. En général, on le dit, quand un arbitre se dirige vers son écran pour aller voir l'image,
tout à fait.
Très souvent, il change de décision.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il s'est pas rendu compte des conséquences qu'il a commis l'erreur.
C'est parce qu'il a mal jugé qu'il
a commis l'erreur. C'est ça.
Ou alors qu'il a eu.
Frappard et Buquet, ils vont voir les images et ils changent pas leur erreur.
Ouais. Et puis ils verront le roi à la télé.
Buquet, il a jamais été question
qu'il. Non.
Au moment, Buquet, il faisait vraiment partie du top.
Je suis d'accord avec Eric. Moi, je trouve que Monsieur Buquet.
Pendant un temps, il était dans les
médias. Il y a des années quand même. Il est plus mis en avant.
Il fait quand même partie des arbitres d'expérience à qui ce genre de choses ne doivent pas arriver.
Parce que maintenant, dans les arbitres d'expérience, il n'y en a plus beaucoup. Il y a Bastien.
Ouais.
Non, d'accord. Okay. Mais par contre, pour les Euros, les Coupes du Monde, il pense à Le Texier.
Benoît Millot, il était un peu en dessous quand même.
Hein, à Clément Turpin.
C'est un peu en dessous,
c'est pas un mauvais arbitre.
Non, j'ai pas dit que c'était un mauvais arbitre.
Non, mais c'est un arbitre expérimenté de notre championnat. Je veux dire,
mais il a jamais été pris pour un euro, non ?
Non.
Non,
bien sûr que non.
Bon, allez, reviens à Brest-Nantes, 0-0.
Et ça s'est chauffé un petit peu là parce qu'il y avait un ballon en profondeur pour les Brestois. Mais finalement, il y a eu un Nantais qui s'est retrouvé au sol. Monsieur Turpin a accordé un coup franc, c'était Chomer, je crois, qui s'est retrouvé au sol. Et du coup, Monsieur Turpin a accordé un coup franc au Nantais qui a coupé net l'action brestoise. Mais je crois que c'était assez logique parce qu'il y avait une vraie faute sur Chomer, mais ça avait eu le don d'agacer le public. Philistérien, on est à 20 minutes bientôt de la fin et toujours pas la moindre occasion digne de ce nom en deuxième mi-temps.
Ça va bouger côté nantais.
Pour le Stade brestois. Et oui, 3 changements qui se préparent pour Nantes. Antoine Comboiré avait laissé 5 titulaires de la semaine dernière sur le banc. Donc là, il a des solutions de rechange sur son banc. Et Chirivella, qui était incertain en début de semaine, va faire son apparition, lui qui est l'habituel capitaine. Florent Mollet également. Et Mohamed, habituellement titulaire, lui aussi. Le meilleur buteur nantais avec 8 réalisations qui va lui aussi faire son entrée, mais pour le moment le jeu se poursuit avec où on perd un peu de précision là dans le jeu côté brestois avec beaucoup d'approximations à l'image de ce ballon en profondeur alors que latéralement on était tout près de le perdre, c'était tout près de filer en touche et finalement en profondeur ça va directement sur Alban Lafont. C'est plus du tout la même qualité de jeu là pour Brest dans cette deuxième mi-temps et on ne le répétera jamais assez dans ce match. Les sortie de Del Castillo et Les Melou en première mi-temps pèse très lourd évidemment parce que le Stade brestois toute la saison a réussi à conserver son équipe type, à traverser la saison sans blessure quasiment et avec très peu de suspension et ça a bien fonctionné jusque là mais là en cette fin de saison c'est plus compliqué avec le poids des absences parce que Les Melou il avait raté 2 matchs déjà récemment sur suspension et ça commence à peser lourd et la série actuelle c'est pas anodin pour Brest parce que si Brest perd plus et prend moins de points depuis 4-5 journées maintenant. Ça correspond avec l'absence de Lesmélou. Attention à Nantes qui est encore à l'attaque avec un centre dangereux finalement boxé par Bizot. Et les Nantais qui s'enhardissent, qui commencent à sentir qu'il y a peut-être un coup à jouer.
C'est incroyable, ils ont 28% de possession. Ouais. Ça baisse encore un peu. Et ils ont le même nombre de tirs que les Brestois et sans doute les occasions les plus franches.
Et oui.
C'est dingue, hein.
Très clairement.
Bien, non, mais ça veut dire que bien préparé aussi tactiquement par Camboiré.
Exactement. Exactement. Même si Nantes a été timide pendant 40 minutes.
Ouais, mais peut-être volontairement. C'est-à-dire, il y avait peut-être une volonté d'essayer d'abord de contrôler Brest qui allait pousser, de ne pas se découvrir, de ne pas prendre de risques.
Oui, mais je trouve que Nantes a mis longtemps à vouloir essayer de piquer parce qu'à force de jouer devant sa surface, ça, vous vous exposez, on l'avait dit en première mi-temps avec Xavier. Et finalement, à partir du moment où ils ont commencé à essayer de piquer, je trouve qu'ils ont pris un peu plus l'ascendant.
Alors, les changements.
Aïe. La sortie de Moutoussamy pour Florent Mollet, la sortie de Benny Traoré pour Mohamed et la sortie de Mathis Sabline, lui qui avait marqué 3 buts sur les 4 derniers matchs et 3 buts qui vont valoir très cher dans la course au maintien, même s'il a raté 3 occasions en fin de première mi-temps et surtout une qui était énorme. Eh bien, Mathis Sabline ce soir ne marquera pas et cède sa place, remplacé par Mohamed.
Ok.
Bon, mais nos paris sont cuits.
Ouais, c'est fini.
Bon, le mien était cuit à la mi-temps. Et puis,
ouais. Non, Mathis Sabine, alors, il a eu des situations. Hein. Il aurait pu marquer, il aurait même dû marquer. Mais on l'a quand même beaucoup plus trouvé, je trouve, que Kadewere. Kadewere
oui.
sur le.
Fin... Bien sûr. Bien ouais, sûr. Kadewere, je trouve que depuis qu'il a signé à Nantes au mois de janvier, je cherche un petit peu la plus-value par rapport aux attaquants qui étaient là précédemment. Ouais. Et Nantes attendait beaucoup plus.
Moi, je trouve les changements plutôt cohérents. Après, c'est simplement Kadewere. Ça ne m'aurait pas surpris de le voir sortir et céder sa place à Mostafa Mohamed pour laisser à Blin, qui est remué au moins, qui a du jus. Quoi.
Tu as raison. Je te rejoins. Bon. Je te rejoins. Et sans doute qu'Antoine Comboiré mise encore sur les contre-attaques et la vitesse de Kadewere, mais c'est vrai que c'est un changement qui aurait pu se discuter.
Il y a un joueur que j'adore, Philippe, et que je trouve dont tu ne parles pas du tout ce soir, donc on ne le voit pas du tout, c'est Satriano.
Oui, c'est vrai.
Alors, il m'a frappé en première mi-temps par sa participation au jeu.
Oui, non, mais il est très généreux et tout, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle quasiment pas.
Moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, par rapport à d'habitude, il décrochait et il participait au jeu plus que d'habitude.
C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup.
Même si pour un attaquant, il ne marque pas beaucoup. Hein.
Ouais,
après,
mais
le problème c'est qu'il est plus vraiment positionné dans l'axe.
Maintenant il est positionné sur le côté.
C'est pas évident pour lui. Je trouve qu'il se sacrifie.
Toujours prêté par l'Inter. Hein. Ouais. Est-ce qu'il va rester à Brest s'il y a Ligue des Champions?
Je pense que les dirigeants brestois vont essayer de le garder. Je pense que Satriano verra une opportunité de se montrer.
Bien sûr, parce qu'à l'Inter il jouera jamais. Donc il a tout intérêt à rester dans un club qu'il connaît, où il est bien et qui joue avec des champions. Si je reste jouer avec des champions.
Et puis il a vraiment le sens du sacrifice, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas son rôle premier. Peu importe où il est, où on le met, en fait, il est rarement décevant parce qu'il est tellement généreux.
Je sais pas.
Ouais.
C'est lui qui vient d'obtenir la faute là, non, me semble-t-il.
Je suis en train de regarder les deux changements qui se préparent pour les Bretons avec l'entrée de Le Douaron, la sortie de Madi Camara et l'entrée également de celui qui s'était illustré pour le dernier match de l'année 2023, Camori Doumbia, qui avait signé un quadruplé face à Lorient juste avant Noël. Camori Doumbia donc qui rentre à la place de Camara en milieu de terrain. Le Douaron qui remplace Steve Mounier,
légèrement offensif on va dire, puisque Mounier et Le Douaron, on peut dire que c'est deux attaquants, et que Camara Doumbia est quand même un peu plus offensif que Camara.
Oui, exactement. Et
est-ce que Satriano va se réaxer du coup?
Et Satriano s'est réaxé effectivement parce que Jérémy Le Douaron est se positionné côté gauche, donc il retrouve son poste de prédilection. Martin Satriano, l'Uruguayen, et les Brestois qui sont dans la moitié de terrain nantaise avec Jonas Martin qui a tenté d'accélérer, balle au pied, il attendait une solution et il a été obligé de lâcher le ballon en retrait vers Lilian Brassier. Il s'est retourné vers ses attaquants en disant mais je veux aussi des appels de balles et des solutions, et oui, il a été obligé de revenir derrière alors que pourtant c'est lui qui avait balle au pied, tenté de donner l'impulsion. Il retrouve le ballon là, Jonas Martin, il a la possibilité, voilà, avec Jérémy Le Douaron, le bon contrôle orienté de Le Douaron, la passe qui est interceptée par la défense nantaise, mais la faute de Mollet sur Le Douaron, et là on n'est pas loin du jaune pour Mollet, alors que M. Turpin n'a pas l'air de vouloir mettre la main à la poche. Coup franc à venir,
c'est son premier ballon, enfin sa première intervention, donc c'est vrai que c'est toujours difficile quand on est arbitre, mais si ça le mérite,
il pourrait le mettre,
il peut le mettre, hein.
Et coup franc à venir pour les Brestois qui se situent quand même loin du but d'Alban Lafont, mais dans la moitié de terrain nantaise.
Mais bon arbitrage, je me suis surpris d'ailleurs, je trouve aussi. Ouais, qu'il rajoute pas, qui est. Ah, il est dans la lignée de son match de Ligue des Champions. Là,
lui qui est passé en 4 jours d'une demi-finale de Ligue des Champions à München, juste à un match à Leblé. Ça doit changer de décor quand même. Hein.
Ouais, ouais, mais tu vois, il est bien ce soir.
Il est bien,
pour
il
l'instant
est bien.
En tout cas.
Rien à dire. Le coup franc de Pereira Lage, il s'est bien appliqué. Et cette fois, c'est renvoyé par la tête de Mohamed. Et ça va revenir quand même avec. La passe mal assurée de Bradley Loco et le doigt rond, toujours dans l'abnégation, qui est là pour gratter une touche, alors que ce ballon semblait perdu. Le doigt rond sollicité par Bradley Loco et il obtient un corner. Il apporte du punch. Ah oui. Jérémy Le Doiron, comme à son habitude.
Le public de se réveiller aussi.
Et oui, et il a effectivement fait un geste en direction des ultras brestois qui sont juste derrière
le
but nantais.
C'est un peu le Santoka brestois.
Bah, allez, franchement, si les remplaçants pouvaient tous s'inspirer de Le Doiron, et oui. L'attitude de Le Doiron,
c'est
exceptionnel.
C'est le Santoka brestois.
Le corner qui est frappé, Lafond qui boxe le ballon des deux points. Il aurait presque pu le prendre des deux mains, mais il n'est pas à l'aise dans les sorties aériennes. Jamais. Même les ballons faciles, il les boxe.
Il n'y a plus personne Lafond. Qui capte un ballon.
Ouais, mais enfin, certains plus que d'autres quand même.
Ouais, Lafond jamais. Hein.
Voilà, on est d'accord, Xavier. Et Pereira Lage qui donne à Doumbia. Qui garde le ballon parce qu'il n'a pas de solution. Il revient derrière avec Lala qui écarte côté gauche pour Jonas Martin. Le ballon dans les pieds de Le Doiron. C'est encore Le Doiron qui propose une solution en allant vers le porteur. Autour, ça ne bouge pas suffisamment. Et c'est Nantes qui a pu récupérer là, malgré l'appel de balle de Le Doiron. Ça repart le bel extérieur de Mohamed sur le côté gauche pour Duverne. Le passement de jambe de Duverne. Oh, il était parti dans une action dont. Il n'est pas coutumier et finalement il a perdu le ballon en position de débordement tout près de la surface de réparation brestoise. Quelque chose me dit qu'on va assister à un dernier quart d'heure enlevé avec deux équipes qui risquent de se rendre coup pour coup. Jonas Martin qui relance le jeu, on est maintenant dans la moitié de terrain nantaise avec Pereira Lage qui revient balle au pied à l'intérieur, il cherche une solution, il a donné à Camori Doumbia. On progresse en direction du but nantais, de la surface de réparation, le centre pour de Bradley Loco dans la surface, mais cette défense nantaise est solide dans le jeu aérien et elle est prête à répondre dans ce domaine. Elle était prévenue, mais le danger, cette fois, le danger est définitivement écarté, même si ça revient. Et c'est définitivement écarté avec Lafond qui se saisit du ballon.
Ah.
Et je crois que quelqu'un voulait parler, non ?
Pas forcément, mais on est.
Ah, j'avais cru
Eric
tout à l'heure.
Avait commencé,
non ? Ah non, tout à l'heure, oui, non, je voulais dire Chardonnay m'a super surpris sur le débordement de Duverne parce qu'il est pris par le crochet et il a quand même le coup de rein pour. Pour pas se laisser déborder,
c'est vrai.
Et parce qu'il a une carcasse à déplacer quand même, Chardonnay. Oui, et franchement, j'ai trouvé bluffant sur le coup.
Et les Brestois qui vont obtenir un coup franc à proximité de la ligne médiane avec Lilian Brassier qui
alors,
est au sol.
Alors juste, si vous le permettez, mesdames, messieurs, rappelons que en Ligue 2, la JOCR s'est imposée 2-0 face au Paris FC dans l'après-midi et que Saint-Etienne a été tenu en échec finalement 2 buts partout sur la pelouse de Guingamp. Alors ça n'est pas officiel, mais c'est officieux, comme le disent certains. La JOCR est officieusement champion de France et promu en Ligue 1.
Mathématiquement, voilà. Pas tout à fait.
Mais mathématiquement, non, parce que effectivement, il y a toujours 6 points qui sont... possiblement...
Oui. S'il y a deux défaites et 5-0, 5-0.
On peut les reprendre, même si la différence de but, elle est quand même de plus 33 pour Auxerre, plus 18 pour Saint-Etienne et plus 13 pour Angers.
Donc on peut dire
sans. Deux à 6 points. Donc,
oui. On peut dire sans se tromper que.
Tu peux pas le dire officiellement, mais voilà. Tu peux le dire.
Mais c'est on officieux.
Et bravo parce qu'ils ont gardé Pélissier, ils n'ont pas tout changé, exactement. Tout cassé. Et finalement, ils reviennent, ils ont fait l'ascenseur.
Et Pélissier qui avait failli obtenir le maintien en cours de saison l'année dernière, ça s'était joué à l'ultime journée avec ce duel à distance entre Nantes. Et la JOCR et un an après Auxerre qui fait son retour en Ligue 1. Nouveau changement pour Nantes avec l'entrée de Amian en défense à la place de Duverne. C'est du poste pour poste et pas de changement évidemment dans l'organisation. Il n'y a aucune raison pour Antoine Comboiré.
On s'approche d'un 0-0 quand même.
Et oui, on s'approche d'un 0-0 à 10 minutes de la fin, même si à chaque possession de balle brestoise, on sent que le public est prêt à s'enflammer pour pousser son équipe à tenter un forcing dans cette fin de match. Là, c'est Nantes qui attaque avec une longue touche. Le ballon est dégagé par la défense brestoise dans sa surface, mais perdu par le Doiron qui vient se battre pour gêner le centre d'Amian et Lydian Brassier qui assure là de l'intérieur du pied ce ballon qui arrivait de très haut dans sa surface. Il le pousse sans prendre de risques en touche, touche tout près du poteau de corner pour Nantes, longue touche de Amiens dans la surface de réparation brestoise. Oh, l'occasion, il n'a pas réussi à se retourner, Kadewere, il a glissé alors qu'il était dans l'axe près du but brestois, mais ça revient dans les pieds nantais avec un ballon qui est donné par Palois à Coco, Palois qui envoie une chandelle dans la surface de réparation. C'est un vrai centre de défenseur ça, et c'est renvoyé par la défense brestoise. Jérémy Le Doiron qui est au bout de ce dégagement et qui emmène ce ballon et qui obtient un coup franc, la bonne entrée.
Qu'est-ce
de Le Doiron, et oui, plein de générosité comme d'habitude.
Il a quand même fini 5 fois par terre depuis qu'il est rentré.
Exactement.
Bon, après, il est...
sans en rajouter. Hein.
Oui, sans en rajouter.
Il a faute à chaque fois, mais exactement. Franchement, il fait une entrée, mais dans l'envie, dans les.
C'est... Mais quand il est titulaire, il a le même punch.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est après, génial parce qu'il y a combien de joueurs qui sont déçus d'être sur le banc et quand ils entrent, ils font
ils
rien.
Ils apportent rien.
Ils montrent justement qu'ils étaient déçus. Donc non, c'est l'attitude qu'il faut montrer, c'est celle-ci.
Alors ça, c'est vrai.
Que tu peux prétendre à une place de titulaire.
Sans minimiser ses qualités, qui sont indéniables. C'est aussi presque sa plus grande qualité.
Oui, c'est vrai.
S'il n'avait pas ça, ce serait un joueur totalement quelconque.
On d'accord. Est d'accord.
Ouais, bien sûr.
C'est lui, pour le coup, plus que les autres. S'il n'a pas ça,
Je suis d'accord.
Ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme Sotoka. C'est un joueur, il a besoin d'en faire peut-être deux fois plus que certains.
Mais bravo à eux, parce que ce sont des joueurs qui arrivent à avoir une carrière exemplaire au plus haut niveau. Que leur qualité intrinsèque de départ peut-être ne garantissait pas.
Et à l'inverse, ces joueurs qui ont... Alors on va suivre le centre de Chardonnay au deuxième poteau, ça traverse la surface de réparation nantaise, ça va filer en touche en faveur de Nantes à l'opposé, plus que 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours 0-0, le bon point pris par les Nantais. Et juste pour terminer le propos, à l'inverse, les joueurs qui ont plus de facilité, qui font la tête quand ils sont sur le banc et qui n'apportent rien lors de leur entrée, passent souvent à côté de belles carrières. Et finalement, il y a une justice. Si des joueurs dans l'abnégation qui sont un peu plus limités, eux réussissent en revanche à exploiter tout leur potentiel et à faire une carrière. En tout cas, Le Doiron, depuis qu'il est entré, il apporte
et il n'y en a pas beaucoup qui ont les deux, hein, Philippe.
On peut en trouver
quand
peut-être.
On peut allier les deux, c'est plus simple.
Ben, j'en vois pas tant que ça, hein. Je vois Ronaldo.
Oui, c'est vrai. Alors, Ronaldo, c'est l'exemple le plus
flagrant. Non, mais le plus flagrant pour moi, c'est Ronaldo.
Ouais, mais là, tu parles de.
Oui, voilà. Non, mais Ronaldo, pour moi, c'est vraiment l'exemple le plus flagrant.
Non, mais regarde, je veux dire, des joueurs qui sont toujours à fond et qui sont des vrais bons joueurs. Benjamin André, c'est un joueur qui n'est jamais sur un terrain en dilettante.
C'est vrai.
Mais c'est pas un attaquant, parce que c'est souvent les attaquants qui ont de la facilité, qui ont tendance à.
Oui, ça, c'est vrai aussi.
Des attaquants. À la fois engagé, il y en a, hein, mais
alors Mbappé, tu le mets dans quelle catégorie?
Non, pour le coup, j'adore
Alexis Sanchez.
Oui,
Alexis Sanchez. Sauf qu'il fait partie de
tout
ces joueurs-là.
Exactement.
Tout à fait.
Moi, je trouve que par exemple, Robert, il est rarement en dilettante.
Lewandowski.
Ouais.
Oui,
moi je l'appelle Robert.
Oui, non mais proche. Mais je suis pas sûr que la liste soit aussi longue que ça, tu vois. Mais tu as raison, Robert Lewandowski, c'est un très bon exemple.
Non mais après là on parle des très grands joueurs, il y a aussi des joueurs moyens qui vont allier les deux et qu'on va pas citer là. Attention à Nantes qui dans cette fin de match peut aller chercher le jackpot avec le centre de Mohamed. Oh, l'occasion ratée. Même s'il se jette, on peut pas lui reprocher grand-chose à Kadewere. Il se jette au deuxième poteau sur cet excellent centre de l'Égyptien et malheureusement pour lui, Kadewere qui ne peut reprendre ce ballon, le ballon qui rippe sur son pied alors qu'il était en retard et qu'il s'est jeté pour essayer de rabattre la course de ce ballon. Et finalement, Brest qui s'en sort bien là sur cette occasion nantaise.
Kadewere, en fait, il perd du temps à lever la main. Non mais vous savez, il y a plein d'attaquants.
Pour demander le ballon.
Mais oui, mais Mostafa Mohamed, il a vu. Je veux dire, il lève la main, du coup, il accélère pas, il pique pas, parce que s'il attaque davantage son ballon, il peut même mettre la tête, je pense, tête mangeante, attaquer, parce que là, il subit un peu l'action.
Et moi, vous me dites ce que vous voulez, mais Mostafa Mohamed, je le laisse pas sur le banc. C'est un très bon joueur. Tiens, bah lui,
Joueur dans la catégorie
un
des joueurs.
Peu, alors exactement. Moins fort que d'autres, mais un peu dans cette catégorie-là aussi.
On est d'accord. On peut en trouver des joueurs qui font une carrière et qui, tout en étant des bons joueurs, sont dans la générosité.
Gaëtan Laborde.
Bien sûr.
Typiquement,
bien
c'est
sûr.
L'attaquant qui. C'est pas un top joueur. Hein.
Mais il se dépouille constamment.
Tu peux rien lui reprocher, même s'il rate des situations.
Oui, mais Gaëtan Laborde, il a un peu moins de qualité.
Voilà, je le mets plus proche de Le Doiron.
Voilà, moi aussi. Un peu plus fort comme ouais,
non, bien sûr, ouais. Mais sauf qu'il a ouais, éclos tard. Au final, il fait une carrière oui, honorable. Et c'est un joueur qui ne triche jamais.
Oh, j'ai lancé un débat qui vous intéresse. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. À 22h42, vous avez encore l'énergie d'aller vous battre là-dessus. J'aime bien.
Mais on va aller dans les 5 dernières minutes maintenant. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Brest qui peut perdre, j'irais, son destin en main, ne faisant que nul ce soir. On ne le saura que lundi, quand Lille aura joué contre Lyon. Au Stadium Nord, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, je crois, mais en tout cas
en Décathlon Arena, voilà, ou Pierre Mauroy, comme tu veux, voilà,
un ancien maire qui aimait absolument pas le foot.
Et en tout cas, si Lille bat Lyon lundi soir, Brest passera 4e et perdrait à 2 journées de la fin son destin en main dans la course à la qualification directe en Ligue des Champions. Mais bon, on est d'accord que de toute façon pour Brest c'est déjà une saison formidable. Les Brestois qui vont tenter le forcing, ils sont à l'attaque. Le Palois qui fait un gros match en défense, qui est là pour stopper Satriano sur le flanc droit de l'attaque finistérienne. On était tout près du poteau de corner. Camori Doumbia qui est servi sur cette touche, qui donne derrière à Jonas Martin. J'ai bien aimé l'entrée de Jonas Martin qui, ouais, en deuxième mi-temps, a touché beaucoup de ballons, a tenté d'organiser le jeu, mais c'est un remplaçant de luxe, hein, Jonas Martin.
C'est pas le même registre que Pierre Lesmelou, hein. C'est du moins tout créatif, moins influent offensivement, mais c'est un joueur d'équilibre.
Oui, exactement.
Pas, vraiment... quand il fait pas l'idiot au niveau comportement, parce que parfois il est un peu.
Oui, il est un petit peu sanguin.
Un peu sanguin, et ça peut porter préjudice.
Lesmelou aussi peut avoir ce petit, oui, côté sanguin. Mais
Lesmelou, c'est plus. Oui, c'est un peu vicieux, un peu à la Mota, tu vois. Martin, c'est parfois moins réfléchi. Donc c'est pas tout à fait la même. Comment dire, la même explosivité chez les deux. Elle, ouais, s'exprime pas de la même manière.
Et en tout cas, c'est Martin qui est au duel là avec Chirivella. Le ballon dans les pieds de Doumbia. Le 1-2 avec Pereira Lage. Et finalement, Doumbia qui ne parvient pas à se mettre en position de frappe à l'extérieur de la surface. Et faute de Doumbia qui a tenté de récupérer le ballon, mais qui a commis la faute sur Marcus Coco, je crois, qui avait jailli de son poste de défenseur.
Généreux Coco, hein, il aura fait son match. Hein.
Ah bah alors, c'est typiquement le joueur qui a, comme le Douaron, besoin d'être généreux dans son jeu.
Ouais, mais lui, il avait des qualités, mais le problème, c'est que depuis le croisé, justement, il n'est jamais revenu,
ouais,
à son
niveau. Oui, mais je pense qu'il était quand même juste techniquement. Hein. J'ai toujours trouvé que pour un attaquant, il marquait pas beaucoup de buts et que techniquement, ouais, c'était un peu frustre.
Ouais, il était pas mal quand même. Avant la rupture du croisé, là, quand il arrive, c'est juste quand, ouais, il arrive à Nantes d'ailleurs.
C'est au tout début
de son arrivée à Nantes. Hein.
Ouais. Exactement. Mais pour ne rien de cacher, il y a un petit arrêt de jeu, on va pouvoir en parler, puisque Marcus Coco va recevoir des soins. Pour ne rien de cacher, quand Nantes a signé Blas et Coco, les deux Guingampais que je connaissais bien, je trouvais que l'investissement sur Blas était justifié, oui, mais que celui sur Coco, oui, mais Blas, n'était pas, vois, justifié.
Blas, il rentre dans l'autre catégorie de ceux qui n'en font pas assez.
Ah bah bien sûr, il sait qu'il a du talent, donc c'est quand il décide.
Blas, non, il est agaçant.
Non mais Eric, quand Marcus Coco arrive à Nantes, il est attaquant. Et finalement, même s'il il a eu la blessure des croisés, certains s'en sont remis. Hein.
Et
il est redescendu défenseur, parce qu'en tant qu'attaquant, ça le fait pas en Ligue 1.
Oui, bien sûr, mais je pense que quand même le croisé l'a vraiment un peu brisé dans son an. Il était quand même en phase ascendante. Bah, alors ouais, peut-être un peu en sur-régime, mais.
Ouais, je crois pas qu'il soit passé à côté d'une carrière. Mais bon, ce n'est que mon avis.
Quand même encore professionnel.
Oui, il est quand même encore là.
Mais à côté d'une carrière.
Mais ça a quand même freiné, quoi.
À côté d'une carrière, je veux dire, brillante, ce que tu entends, Eric, je crois pas.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Bah,
quand t'es joueur en Ligue 1, déjà, c'est
oui,
déjà
une carrière sympa.
Mais Marcus Coco, il avait profité à l'époque des 2-3 belles saisons réalisées par Guingamp, qui avait vraiment fait.
Il avait été valorisé, je dirais, par les résultats collectifs. Mais indépendamment de ça, quand tout on regarde bien le potentiel de Coco à Guingamp dans cette équipe qui marchait bien et celui de Blas, il n'y avait pas photo.
Ah bah évidemment,
on voyait qu'il y en avait un qui avait du potentiel et que l'autre était limité. Mais bon.
Et Quentin Vasselin, que vous retrouvez avec Isabelle Langer demain pour On fait le sport, vient de prendre un carton. C'est le sosie officiel de Chirivella. Et d'ailleurs, ce ne sera pas Isabelle Langer demain, ce sera Jean-Michel Rascol. Il y aura notamment du rugby avec la demi-finale de Toulouse. Oui. C'est Leinster qui s'est qualifié pour la finale de cette Coupe d'Europe d'Orbi. Et donc, Chirivella est le sosie officiel de Quentin Vasselin, ou l'inverse, peut-être plutôt.
C'est vrai. Ouais. Le changement, le dernier pour Nantes dans ce match. On parlait de Marcus Coco à l'instant, il cède sa place, je vais quand même dire du bien de Marcus Coco. Il a fait son match ce soir en défense. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs nantais n'ont pas fait leur match ce soir. Et Marcus Coco est remplacé par Nicolas.
Et Nicolas Cozza, il a encore quelques stigmates, hein, Philippe, du pied haut de Nordin.
Nicolas Kozak qui fait son entrée donc. Et c'était il y a 8 jours effectivement dans un choc avec l'attaquant montpellierain Kozak qui a démarré ce soir sur le banc, qui rentre pour les toutes dernières minutes, celle du temps additionnel quasiment. Brest à l'attaque qui perd le ballon et Florent Mollet qui réoriente le jeu. Ouh, la passe en retrait, c'était peut-être pas la meilleure des choses là, parce qu'il y a un pressing sur Castelletto et l'ancien Brestois s'en sort pas mal, mais finalement ce ballon est définitivement perdu. Oui, je pense que Mollet est avec en plus son rôle de meneur de jeu, il aurait été plus inspiré de se mettre dans le sens de la marche au lieu de revenir derrière.
C'est pas une bonne rentrée, Mollet. Hein.
C'est vrai. Et c'est Brest qui est en possession du ballon dans la moitié de terrain nantaise avec le changement d'aile de Satriano qui avait à nouveau décroché de son poste d'attaquant, mais encore un ballon renvoyé de la tête par la défense nantaise à Comboiré. Il a été entendu par ses joueurs cette semaine. Attention au jeu aérien des Brestois, attention au centre. Et là, je peux vous dire que sur les centres brestois, la charnière centrale nantaise qui était renforcée ce soir a répondu présent. On va entrer dans le temps additionnel 0-0 toujours entre les deux équipes. Il n'a pas été annoncé le temps additionnel.
5 minutes
de temps additionnel. Je crois qu'il a été annoncé, mais il m'avait échappé.
Et ça pousse un peu, allez.
Et ça pousse faire. Évidemment dans les tribunes de Leblé, mais timidement. J'ai connu des fins de match où le public haranguait son équipe. Et c'est vrai que Brest a semblé totalement impuissant en deuxième mi-temps. La tête de Mounier à la 61e minute, sans danger, nettement au-dessus. C'est la seule frappe de Brest en deuxième mi-temps. C'est pauvre quand même, et c'est le reflet du potentiel offensif totalement amoindri avec les sorties de Del Castillo et Pierre Lesmelou. Brest qui avait été épargné par les blessures vraiment toute la saison, et Brest qui pousse quand même avec le bon ballon de Magnetti pour le Douaro. Oh, le centre, il était dangereux. Ah, il aurait pu frapper, mais c'était bien vu ce centre, parce que Pereira Lage se précipitait dans l'axe, et heureusement pour Nantes, il y a un défenseur, j'ai pas vu qui c'était, dans les 5-50, qui est là pour détourner le ballon en corner. Merci. Si le défenseur se rate, ou si Pereira Lage était un tout petit peu plus en avance, c'était clairement beaucoup plus dangereux pour Alban Lafont.
Si Magnetti se met à faire des percées de balles comme ça, balle au pied, fantastique ce qu'a fait Magnetti sur l'action. En plus, il donne un caviar derrière à Le Douaron.
Et effectivement, et les deux...
Je crois que c'est Kozak qui vient de rentrer, qui l'enlève, non ?
Il m'a semblé, mais je ne suis pas sûr.
Ouais, c'est Kozak.
Oui, c'est Kozak.
Et oui,
Kozak. Il est bien rentré dans son match.
Voilà, lui, c'est pas comme Pereira Lage, il n'a pas eu besoin de se mettre en rythme tout de suite. Remarquez, vous avez plutôt intérêt, quand vous êtes défenseur, il faut tenir un point qui peut être important dans la course au maintien.
Sissoko, il n'avait pas un coup franc à frapper.
Sissoko qui avait des crampes, mais qui a repris sa place. Nantes ne peut plus faire de changement. De toute façon, le corner qui est frappé par Pereira Lage. Lafont qui sort bien, il faut le dire, pour une fois. Dans les airs, il soulage sa défense en boxant le ballon des deux points et il écarte le danger. Non, mais là, c'est important.
Là, il fallait pas la capter.
Non, je plaisante, parce que je plaisante. Mais quand Philippe, tu t'es enflammé, je me suis dit, oh, il a capté un ballon.
Non, il l'a boxé. Il l'a boxé et sa sortie, elle a fait du bien à sa défense parce que là, c'est le moment de tenir pour Nantes. Oh, le tacle raté de Sissoko. Loco qui centre et Palois qui est devant son but pour écarter le danger, mais que c'était dangereux. Brest dans le temps additionnel. Qui tente son va-tout maintenant, alors que Brest a été en difficulté offensivement toute la deuxième mi-temps, mais ce temps additionnel est intéressant du côté Brest. Tu as plus que 2 minutes pour essayer de forcer la décision. 0-0, la longue touche à venir pour les Brestois. Longue touche de Martin dans la surface de réparation. La tête nantaise de ballon dans cette surface que Palois finalement laisse filer jusqu'à Alban Lafont et le gardien nantais qui va gagner du temps et casser le rythme.
Honnêtement, si on en reste là, ils n'auront pas volé leur point, les Nantais. C'est vraiment, c'est franchement.
Il est mérité.
Il est mérité.
Je dirais même qu'en fin de première mi-temps, les trois énormes occasions d'Ablin.
Je trouve que le nul était... me semble assez logique.
Je dis pas le contraire, mais je me mets à la place des Nantais qui peuvent se dire qu'ils étaient pas loin d'un très gros coup ce soir à Brest, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a que Paris et Monaco qui s'est imposé ici à Leblé cette saison. C'est une forteresse quasiment imprenable. Il n'y a que des gros qui sont venus gagner là, et Nantes qui est simplement 15e du classement. Nantes va grappiller un point
très important.
Et oui.
Nantes a un très beau bilan à l'extérieur depuis le début de l'année.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Xavier.
Ce serait le 15e point glané là à l'extérieur depuis le début 2024.
C'est les 9 défaites à la Beaujoire qui les plombent.
4 victoires, 2 nuls et une défaite en 2024 à l'extérieur. Heureusement pour Nantes. Dans ces victoires, il y a 2 victoires, je l'ai dit tout à l'heure, au Havre et à Lorient, à qui valent très très cher au décompte final.
Ils repasseraient devant le Havre, donc 14e, les Nantais avec 33 points, le Havre en compterait 32. et Metz 29, donc il y a un
et
vrai...
attention à la tête au premier poteau, le centre devant le but de Lafond qui est finalement écarté au deuxième poteau par la défense nantaise. C'est pas fini Eric, il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Les Brestois qui ont une dernière possession avec Magnetti depuis le rond central qui donne sur le côté droit à Jonas Martin, un dernier centre à venir pour les Brestois. Non, finalement on choisit de combiner mais le ballon est perdu et c'est Nantes qui récupère ce dernier ballon du match sans doute. On est à moins qu'il y ait encore un peu plus de temps additionnel. Sissoko a eu des crampes tout à l'heure, on aura peut-être droit à une minute supplémentaire de la part de monsieur Turpin. Les Brestois qui repartent depuis leur moitié de terrain. Monsieur Turpin regarde son chrono, on a atteint les 5 minutes de temps additionnel. Il laisse le jeu se poursuivre avec le contrôle un peu long de Ledouaron qui finalement perd définitivement le ballon et c'est terminé. Ah, je pense que monsieur Turpin aurait pu rajouter une minute après l'arrêt de jeu tout à l'heure sur les crampes de Moussa Sissoko. Ça n'aurait pas été illogique et finalement ce match qui se termine sur un score nul et vierge qui ne fait pas l'affaire de Brest, on l'a dit, mais qui est très important ce point du nul pour Nantes dans la course au maintien.
Est-ce le fameux bon 0-0 qu'on évoque de temps en temps sur nos plateaux radio? Peut-être, on va noter évidemment ce Brest-Nantes 0-0, on va désigner le magnifique, le catastrophique de la soirée. Au classement donc, Brest reste 3ème avec 57 points, mais à 4 longueurs désormais de Monaco, à 2 journées de la fin pour les places directement qualificatives de la Ligue des Champions, et surtout sur la menace de Lille qui a 2 points de retard mais qui en cas de succès lundi face à Lyon à domicile passerait devant Brest et prendrait cette 3ème place à 2 journées de la fin. Nantes récupère la 14ème place avec 33 points, une longueur devant Le Havre qui a gagné contre Strasbourg, et 4 longueurs devant Metz. Joker possible donc pour les Nantais pour la place de barragiste. Les Nantais qui ne peuvent plus être relégués évidemment puisque Lorient compte désormais 7 points de retard sur les Nantais. Ce sera ou la place de barragiste ou le maintien en Ligue 1 pour les Nantais. Notons cette partie.
RTL Foot. La note.
La note finale, Philippe, tu étais à 6 me semble-t-il à la mi-temps.
Exactement, je descends sans hésiter à 5 parce que en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu d'occasion ni d'un côté ni de l'autre. Il y a eu quelques escarmouches nantaises sur des contre-attaques, mais Brest s'est retrouvé totalement démuni après les sorties de Lesmelou en première mi-temps et celle de Del Castillo en fin de première mi-temps. Et là, on a tout de suite vu la différence. Brest, offensivement, n'y était plus malgré la bonne entrée de Ledouaron. Et pour Brest, je n'ai pas comptabilisé d'occasion dans cette deuxième mi-temps. Donc pour moi, ça on ne peut pas aller au-delà de 5.
Ouais, moi j'étais sur un bon 6, mais vraiment un bon 6 en première mi-temps. Là, je vais être sur un petit 5 pour pas mettre 4 parce que je pense que sinon ça mériterait peut-être un 4, mais je reste sur un tout petit 5 parce que la deuxième mi-temps a été beaucoup moins intense en termes de rythme. Brest, on a beaucoup moins fait. Alors, Nantes a été cohérent hein, tactiquement dans sa manière de gérer, je trouve, cette deuxième mi-temps. Nantes s'est créé une nouvelle fois quasiment les meilleures possibilités et Brest a essayé d'emballer les choses dans le temps additionnel, ça n'a pas été suffisant, donc un petit 5.
Petit 5 également, je suis déçu. Alors après, on l'a dit, hein, y a forcément des explications. Quand tu perds tes deux meilleurs joueurs sur la première demi-heure, forcément, ça t'ampute de beaucoup de qualité. Mais je trouve que Brest a vraiment poussé dans les ultimes minutes et c'est dommage, ils auraient dû aussi quand même essayer d'y croire un petit peu plus tôt. Et du côté de Nantes, c'est bien pour eux. Ils auraient pu gagner, mais le principal, c'est de se maintenir. Et là, c'est quand même bien parti. Mais voilà, je me suis pas régalé.
Ça sera un bon 5 pour moi, pas un petit 5. Je descends de 6 à 5 parce qu'en effet, Brest est un peu décevant offensivement dans la construction. Les Nantais ont vraiment fait leur match, je trouve. Personne ne s'est caché. Remplacer Lesmelou, Castillo, c'est quand même pas évident quand tu rentres. Et même s'il y a eu des difficultés dans la construction, je trouve que ça a été un match avec pas mal de générosité. Donc la moyenne, voilà, sans plus parce qu'il n'y a pas de but et qu'on n'a pas été éclairé par de la qualité offensive. Mais il y a quand même eu un match. Avec une intensité tout à fait acceptable, donc je mets la moyenne. Le magnifique.
RTL Foot.
Le magnifique.
Philippe, le magnifique.
Ah, je pourrais mettre Castelletto, qui est le pilier de la défense nantaise, l'ancien Brestois, qui encore une fois a fait son match. Mais je vais choisir Nicolas Pallois. Parce que Nicolas Pallois, je l'ai trouvé ce soir irréprochable, souvent à la retombée des ballons. Et parce qu'il a un destin, Nicolas Pallois. Il a beaucoup moins joué cette saison. Et à chaque fois, je trouvais qu'il était plutôt bon. Et là, depuis le retour de Comboiré, depuis quelques matchs en tout cas, il a retrouvé une place en charnière. Au dépens d'ailleurs de Nathan Zézé, qui était très bon, hein, le jeune défenseur nantais, mais qui avait commis une faute contre Strasbourg, qui avait coûté un but important. Mais le Palois, je trouve, de cette défense, il a quelque chose en plus parce qu'il a un supplément d'âme. Et je trouve que dans cette équipe nantaise, il apporte ça par rapport, au-delà de sa qualité défensive, il apporte aussi ça, ce supplément d'âme qui parfois a manqué à Nantes cette saison.
Il a retrouvé sa place, hein. Il a été longtemps sur le banc, donc.
Moi, je trouve que c'est très très difficile dans ce match de trouver un magnifique. Je comprends ce que vient de dire Philippe. Si on reste dans ce registre-là, bon, après, ce sera pas forcément pour le match, mais pour moi, c'est l'un de mes coups de cœur de la saison. Et je trouve qu'il a encore été très bon défensivement. Mais c'est de l'autre côté, c'est Brassier. Moi, c'est un défenseur central que j'aime beaucoup. Alors, il a pas eu beaucoup de choses à faire ce soir. Il a pas été particulièrement meilleur que les autres, mais je trouve que c'est dur de trouver un magnifique. Si je dois en sortir un, c'est Lilian Brassier. Voilà.
Ok.
Moi, il n'y a pas de manière. Non, mais parce que effectivement, je trouve que c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé l'entrée en jeu de Lodoiron, mais elle arrive quand même tard dans le match. Et moi, je trouve que les magnifiques, il faut qu'ils jouent quand même un petit peu plus.
Bien sûr.
Je suis souvent un peu comme l'équipe où il faut jouer une mi-temps et ça n'a pas été le cas. En tout cas, j'ai adoré son entrée en jeu et j'aurais aimé qu'effectivement, ce qu'il a impulsé, il puisse l'impulser un peu plus tôt. Et je trouve ça finalement un peu dommage, tu vois, qu'il soit rentré que pour le dernier quart d'heure. Parce que je me dis que s'il était rentré peut-être à l'heure de jeu, il aurait peut-être pu pousser son équipe et les emmener jusqu'à la victoire parce qu'il a emmené un vrai élan.
Exactement.
Je croyais que tu allais dire un autre mot.
Non.
Tu n'avais pas fait tomber ta voix, donc je pensais que tu allais rajouter quelque chose. Moi, je vais dire Brassier également, que j'aime beaucoup, comme Xavier Domergue. On termine avec le catastrophique très rapidement.
RTL Foot. Le catastrophique.
Philippe.
C'est peut-être un peu sévère, mais je vais dire Benny Traoré. Je le trouve un peu trop faible, je trouve, l'attaquant nantais qui était titulaire ce soir, mais bon, qui est généreux, mais c'est encore un peu juste sur le plan offensif.
Ouais, moi je vais mettre. Il a joué tout le match. À mon sens, il n'aurait pas dû mériter. Il n'aurait pas mérité de jouer tout le match.
C'est
Tino Kadewere pour moi.
Moi, ça va être dur, mais je suis désolé. Abline, il a eu l'occasion vraiment d'ouvrir le score. Et alors, c'est pas grave parce qu'ils vont se maintenir a priori, mais ça aurait pu avoir des conséquences plus graves. Donc voilà, il a pas été catastrophique, mais il a eu des énormes occasions.